Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont déjà eu recours en France à des tests génétiques d'origine. Bien que cette pratique soit interdite par la loi, elle est dans la pratique extrêmement répandue, extrêmement facile d'accès par Internet. Il suffit de cracher dans un tube, de l'envoyer dans un laboratoire qui extraira votre ADN, et quelques centaines d'euros, même peut-être moins, plus tard, vous aurez un rapport sur vos origines génétiques, un rapport dont les chiffres frappent. Par la précision, on apprendra par exemple que vous êtes à 32% d'origine irlandaise et 15% d'origine espagnole et 27% d'origine italienne. Chiffre fictif, mais c'est ainsi que fonctionnent ces tests, avec une précision qui impressionne, qui semble gage de scientificité. Que penser d'une part de ces chiffres, comment on les obtient, quelle crédibilité, quelle pertinence? Et d'autre part, que penser de ces entreprises? C'est un marché de plusieurs dizaines d'entreprises de par le monde, des entreprises non pas françaises puisque c'est interdit en France, mais qui existent dans de nombreux autres pays, qui se développent et où on retrouve des filiales de grands groupes du numérique, notamment une société qui s'appelle 23andMe, 23 et moi, 23 comme 23 chromosomes, qui est une filiale de Google, ce qui pose évidemment des problèmes de données, non pas des données personnelles, mais des données génétiques, qui sont une autre forme également de données personnelles. Alors pour discuter de ces questions, tant sur le fond scientifique que sur les enjeux économiques et sociétaux de ces tests génétiques d'origine, nous recevons aujourd'hui à la Science Friction Catherine Bourguin. Catherine Bourguin, bonjour.
Bonjour.
Donc Catherine Bourguin est généticienne et sociologue des sciences à l'INSERM, à Paris. Et nous recevons Evelyne Ayer, bonjour,
Bonjour.
qui est professeure d'anthropologie génétique au Muséum national d'histoire naturelle.
Tout à fait.
Evelyne, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie génétique?
Ah ben c'est l'étude de l'homme, c'est sa diversité et son évolution en utilisant comme outil la génétique. Donc c'est pour ça aussi que j'étais commissaire générale du Musée de l'Homme, que j'ai pu participer à refaire, qui est autour de l'homme, de son histoire, de sa diversité.
Donc on reviendra sur ce que la génétique peut apporter à la connaissance de l'histoire humaine, mais commençons par le plus simple. Comment fonctionnent ces tests génétiques d'origine, Catherine Bourguin?
Alors, comme vous venez de le dire, on fait cracher les clients dans un tube et dans la salive, il y a de l'ADN de la personne. Donc cet ADN est ensuite analysé. Alors, on ne le regarde pas en entier, c'est-à-dire on ne regarde pas toute la séquence d'ADN. Il y a certains segments qui sont choisis parce qu'ils sont particulièrement variables d'une personne à l'autre. Donc l'ADN est analysé en un nombre important de segments, hein, qui peut être de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, voire un million de segments. Et ensuite, l'ADN de cette personne va être comparé à des ADN qui sont dans une base de données. Alors, dans cette base de données, il y a deux types d'ADN. Il y a d'abord l'ADN des autres clients, qui ont été aussi analysés sur ces segments. Et puis, il y a des ADN d'individus qui sont associés à ce qu'on va appeler, on en discutera, des populations de référence, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans différents endroits du monde, qui ont été choisies par les gens qui ont constitué cette base de données. Et donc, on va comparer l'ADN du client à ces deux types d'informations. Et l'idée, c'est non pas du tout de faire comme on fait un arbre généalogique, hein, de reconstituer comme ça qui étaient les parents, les grands-parents, etc., de ce client, de l'ADN de ce client, mais bien d'essayer par des algorithmes, pour certains un peu compliqués, de regarder à partir de ces données de référence comment on pourrait reconstituer l'ADN de ce client en prenant un peu d'ADN d'une population, un peu d'ADN d'une autre population, etc. Donc il y a des algorithmes qui sont la source de ces chiffres dont vous parliez en introduction et qui expliquent pourquoi on peut arriver à des statistiques comme 0,2% d'ADN chilien, par exemple, parce que ce sont des populations de référence considérées comme étant chiliennes, il faut 0,2% de ça pour faire un mix qui corresponde le plus possible à l'ADN du client qu'on cherche à comparer.
Comment est-ce qu'on constitue ces populations de référence en préparant l'émission? Evelyne Ayer, vous me racontiez que vous aviez constitué des populations de référence de ce type chez les Pygmées du Gabon, chez un peuple d'Asie, de Sibérie asiatique. Comment est-ce qu'on fait une population de référence? Comment on la définit?
Alors en anthropologie génétique, donc on utilise ce concept de population de référence. En général, c'est des individus qui vivent au même endroit et dont les quatre grands-parents viennent du même endroit. Pourquoi? Parce qu'au cours du XXe siècle, il y a eu beaucoup de migrations, et en prenant des individus dont les quatre grands-parents viennent du même endroit, c'est un peu comme si on remontait dans le temps et qu'on avait des populations qui correspondent à celles du début du XXe siècle, avant tout ces mouvements beaucoup plus récents au cours du XXe siècle. Maintenant, dans les compagnies qui font les tests d'origine géographique, on ne sait pas comment ils constituent leur population de référence, parce que eux ne passent pas, je dirais, à travers les fourches codines de la publication, de la validation par des pairs. C'est essentiellement des boîtes noires. Moi, je pense qu'ils font leur travail correctement. Néanmoins, il y a des petits problèmes de définition. Par exemple, qu'est-ce que c'est d'être français? Si vous prenez quelqu'un du nord de la France ou quelqu'un du sud de la France comme français de référence, ça ne vous donnera pas les mêmes résultats. Si la population française de référence, c'est des gens du nord et que vous, vos ancêtres, étaient essentiellement d'origine du sud de la France, on va plutôt vous trouver proche d'un Italien que d'un français du nord. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle du monde et particulièrement de l'Europe, on se ressemble d'autant plus génétiquement qu'on est proche géographiquement. Donc un français du nord est plus près d'un Belge et un français du sud-est est plus proche d'un Italien.
Peut-être une précision importante du coup, c'est que quand on parle de tests d'orientation génétique, en fait, on ne remonte pas dans le temps, puisqu'on n'a pas l'ADN de gens qui vivaient là il y a 100 ou 200 ans. Hein. Donc c'est bien une approximation, puisqu'on va comparer à l'ADN de gens qui sont vivants aujourd'hui ou qui l'étaient au moment de la collecte des données. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle parfois aussi d'orientation géogénétique, pour insister sur cette idée que, en fait, on essaye d'accéder au passé à partir de données du présent, en faisant des hypothèses sur la migration ou la non-migration des populations. Mais on n'est pas sur l'analyse d'ADN ancien.
Et qu'est-ce qui distingue la manière de travailler en anthropologie génétique quand on cherche à retracer par exemple l'histoire du peuplement de tel continent avec les outils de la génétique et la manière dont travaillent ces sociétés? Quelles sont les...
Dans un sens, ça se ressemble beaucoup. Hein. D'ailleurs, c'est souvent des gens, entre guillemets, qu'on connaît de l'univers académique qui sont allés travailler dans certaines de ces compagnies. Les algorithmes sont les mêmes. Je dirais que la différence, c'est d'abord des aspects de constitution des populations de référence et aussi de problèmes éthiques liés à ces constitutions des populations de référence. Et après, les inférences qu'on en fait, nous, quand on cherche à retracer l'histoire des populations, pas l'histoire d'un individu particulier.
Alors, vous aviez souligné que les boîtes noires de ces tests ne permettaient de connaître ni la manière dont étaient faites les populations de référence, ni la manière dont l'ADN était analysé, ni les algorithmes, ce qui aboutit parfois à des situations cocasses. Un même ADN analysé par deux sociétés différentes va donner des résultats différents, parfois des origines différentes.
Oui, alors il faut quand même mettre un bémol là-dessus. D'une compagnie à l'autre, ça dépend des populations de référence. À l'intérieur d'une même compagnie, ça dépend des algorithmes. D'ailleurs, si vous refaites votre test 10 ans après, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Il y a des différences, mais en général, les résultats qui sont donnés par ces compagnies, c'est des pourcentages avec des intervalles de confiance autour. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de raisonner en intervalles de confiance. Et d'une manière générale, quand même, les résultats sont assez congruents, je dirais, à une échelle géographique large de continents. Votre pourcentage, grosso modo, d'origine, on va dire, européenne, asiatique, africaine, Moyen-Orient, etc., ça bouge peu d'une compagnie à l'autre. C'est plus quand on est quand on essaye de faire des choses un peu plus fines et précises, avec quand même des choses rigolotes. Par exemple, si vous avez des ancêtres de Sibérie, bon, moi j'aime beaucoup la Sibérie vu que c'est un de mes terrains, si vous êtes européen, vous avez des ancêtres de Sibérie et que vous faites vos tests à 23andMe, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on vous trouve des origines amérindiennes et pas du tout sibériennes, parce qu'ils n'ont pas de population de référence en Sibérie, et que comme les Amérindiens viennent des populations de Sibérie, on va vous trouver des ancêtres amérindiens, alors que parmi vos ancêtres, il n'y en a aucun qui est jamais allé en Amérique. Donc voilà, ça
c'est
permet de relativiser.
Mais je pense que ce qui est quand même important d'avoir en tête, c'est que toutes ces populations de référence et l'exploitation de ces résultats par les généticiens des populations avaient vraiment comme objectif de comprendre l'histoire du peuplement sur Terre par l'espèce humaine. Hein. Donc c'est des histoires au niveau des populations, au niveau des masses d'individus. Et là, ces mêmes données, avec des formes d'analyse qui sont similaires, mais sont utilisées pour reconstruire une histoire ou pour proposer ce qui serait une histoire individuelle. individuelle. Et donc, dans cette question d'imprécision d'une entreprise à l'autre, il y a aussi cette limite de comment un savoir statistique, un savoir de population, peut ou pas être pertinent pour reconstruire précisément une information individuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est central à énormément d'usages de la génétique. C'est la même chose en santé, hein, bien souvent, qui montre les limites, en fait, de savoirs qui n'ont pas été développés pour répondre à ces questions individuelles. Ces savoirs ont été développés pour répondre à des sont développés pour répondre à des savoirs beaucoup plus collectifs. Et donc cette imprécision, elle est aussi à interpréter avec cette limite.
Et d'ailleurs, il y a un point à rajouter qui est assez marrant, c'est que si on remonte une généalogie d'un individu parmi nos ancêtres, à la 5e ou 6e génération, il y en a à peu près 70% qui n'ont pas transmis d'ADN jusqu'à nos jours.
Et oui.
Donc, de toute façon, vous retracez que l'histoire des ancêtres qui ont transmis de l'ADN jusqu'à vous. Et dès qu'on remonte dans le temps, en fait, c'est un nombre de vos ancêtres qui est relativement réduit par rapport à toute l'histoire, je dirais, de votre arbre généalogique. Donc, ça aussi, c'est une autre limite.
Alors, est-ce qu'avec ces tests génétiques d'origine, on ne donne pas un fondement scientifique à la notion de race humaine? Je pose la question à Elvin Ayer, qui a coécrit ce livre très intéressant, qui est sous-titré « Des préjugés au racisme, réponse à vos questions ». Est-ce qu'on ne relance pas la notion de race avec ça?
Alors, on ne relance pas la notion de race, parce que je pense que quelqu'un qui est raciste, quelle que soit l'histoire qu'on lui retrace, reste raciste ou pas. On a l'exemple, par exemple, du politicien d'extrême droite aux États-Unis qui découvre avec stupéfaction que je crois 15% de son ADN est d'origine africaine. Ça l'a pas fait changer d'opinion. Donc je ne pense pas que les tests d'origine renforcent ou pas une pensée raciste. Le bémol que je mettrais, c'est effectivement sur cette notion d'essentialisation, c'est-à-dire de donner trop de poids à ces tests génétiques et à ces origines génétiques par rapport aux autres points de vue qu'on peut avoir sur l'individu. D'ailleurs, on dit toujours qu'un individu, c'est un ensemble d'identités multiples que l'on peut souhaiter mettre en avant, et de donner trop de poids à cette identité génétique peut aller vers des travers qui sont importants dans le cadre du racisme. Mais moi, de mon point de vue, ce ne sont pas ces tests d'origine qui font ou pas le racisme.
Catherine Bourguin, sur cette notion.
Alors, je suis d'accord sur cette idée que ce n'est pas ces outils qui vont produire en eux-mêmes du racisme, mais en même temps, les objets techniques, scientifico-techniques, sont toujours des objets qui ont des effets sur nos sociétés, sur nos façons de réfléchir, sur nos façons de penser, sur nos façons d'agir. Et en l'occurrence, le fait qu'on puisse proposer aux individus un chiffre, comme vous l'avez dit, précis, qui est en plus auréolé de toute la magie, la fascination qui peut entourer la génétique, a un effet sur les individus, a un effet, alors, à quantifier, mais aussi sur nos sociétés, c'est-à-dire à partir du moment où on peut faire des bases de données sur lesquelles, dans lesquelles les individus sont étiquetés à des populations, avec toutes les limites de ce que représentent ces populations, qui veut, à un moment donné, utiliser ces données pour trier, pour discriminer, pour assigner les individus à des identités, même si les individus ne s'y reconnaissent pas, il peut le faire, parce que l'outil est là et que l'outil a une espèce de reconnaissance qui vient de celle de la reconnaissance sociale, de la génétique et des technologies de génomique avec. Donc je pense que cette dimension collective, d'outils collectifs, est absolument essentielle. Alors je suis d'accord, c'est pas ça qui fait la race, mais on voit bien que ces débats-là reviennent aussi, d'autant plus qu'ils sont nourris par des outils qu'on n'avait peut-être pas sous cette forme-là il y a quelques années et qui sont aujourd'hui vraiment disponibles. Et à mon sens, la vigilance est d'autant plus requise quand on a des outils comme ça dont on connaît les limites, parce que les usages et les conséquences de ces outils, on peut déjà les prédire. Alors, on ne dit pas que ça va arriver, mais on sait que c'est possible.
Alors là, moi, je suis tout à fait d'accord avec Catherine. Mais alors, entièrement. Je pense que le problème, c'est vraiment comment on gère ces données et ce qu'on en fait.
Bon, alors on va passer à un domaine sur lequel vous n'êtes pas d'accord du tout. Ça sera beaucoup plus intéressant, puisque, donc je l'ai rappelé en introduction, selon l'article 16.10 là, du Code civil, les tests génétiques dits récréatifs, qui ne sont pas prescrits par un médecin, sont interdits en France et passibles de 3 750 € d'amende, même si en pratique, cette disposition n'est pas appliquée. Et lors de la révision des lois bioéthiques qui a eu lieu il y a quelques mois, il y a eu des possibilités d'amendement, des discussions sur la perspective d'autoriser en France ces tests d'une manière de prendre acte du fait qu'ils sont largement répandus. Vous avez sur cette question des positions antagonistes, me semble-t-il. Qui veut commencer? Vous vous regardez dans les yeux.
En fait... On a des positions antagonistes, c'est-à-dire je pense qu'on relève les mêmes problèmes. Hein. Le problème, c'est que votre ADN, c'est pas seulement le vôtre, c'est celui aussi de vos proches. Hein. Donc il faut bien en avoir conscience que vous ne vous impliquez pas vous tout seul, mais que vous impliquez d'autres gens quand vous faites ces tests génétiques, qu'il y a le problème effectivement soulevé de ces données, quoi en faire, comment les conserver, etc. Moi, je prône plutôt une autorisation avec accompagnement de manière à bien expliquer les tenants et les aboutissants, bien rappeler que ces tests d'origine génétique, c'est récréatif et que ça ne doit pas prendre plus de place que ça dans la vie d'un individu. Donc moi, je suis beaucoup plus pour une autorisation avec un encadrement et notamment avec vraiment la mise en place de quelque chose qui permet vraiment de gérer ces données afin qu'elles ne puissent pas être utilisées de manière...
Ça, on y reviendra un petit peu après.
Alors, d'abord, je voulais dire que la loi de bioéthique n'est pas votée encore. Elle a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale. Elle est actuellement en discussion au Sénat, donc on ne peut pas complètement considérer que cette affaire est close. Et voilà. Avec effectivement plusieurs collègues généticiens, on a fait une tribune quand on a eu connaissance hein, de ces amendements de députés de La République En Marche qui demandaient l'autorisation de ces tests, une tribune dans laquelle on dit « ne cédons pas à une évidence technologique », entre guillemets, puisque notre point de vue était de dire la réglementation de la génétique en France, vous l'avez rappelé, depuis longtemps, est très spécifique. Ce n'est pas une information biologique qui est considérée comme les autres, parce que nous la partageons, parce qu'elle est stable dans le temps, et qu'en conséquence, ces usages sont susceptibles de conséquences sociales importantes. Hein, et qu'il est important d'avoir vraiment en tête que cette régulation qui peut paraître aujourd'hui répressive est aussi une régulation qui vise à protéger aussi bien les individus que la société. Et là, en l'occurrence, il s'agit de remettre quelque chose en compte de fondamental dans la réglementation de la génétique en France, qui est que, comme c'est un savoir fragile, complexe, les parlementaires avaient décidé donner la responsabilité à des professionnels de prendre soin de cette information. Et j'utilise ce terme à dessein, hein, prendre soin de toutes ces limites et de ces capacités, hein, mais de pouvoir donner les capacités de ces formes de savoir en faisant attention à toutes les dérives. Et les limites de ces usages.
Oui, mais attention, ça, ils l'ont donné que pour l'aspect médical des tests.
Non, mais bah non, parce que c'est pareil sur la justice.
Oui, sur les tests de paternité. Mais il n'y a pas de mise en place d'un espèce de système d'experts et de référents, dans ce cas-là, sur les tests d'origine génétique.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Evelyne. Ce que je dis simplement, c'est que dans la loi aujourd'hui en France, l'information génétique n'est jamais délivrée directement aux personnes. Il y a toujours une intermédiation par un professionnel dont les compétences sont reconnues d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et donc, un accès libre, par définition, remet en cause ce cadre-là. Hein. Et donc la question qui a se posé avant de prendre cette décision, moi j'ai un avis personnel, personnellement je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que ce qu'on a à y gagner en termes de qualité d'information sur les individus, comme on l'a discuté, ne fait pas le poids par rapport à cette brèche qu'on ouvre et par rapport aux conséquences des usages de la génétique dans la société. Maintenant, on pourrait prendre effectivement une autre décision, c'est les parlementaires qui décideraient, mais il me semble qu'il faut être très attentif à prendre ce genre de décision, parce que c'est une décision majeure sur la façon dont on régule la génétique, sur la place qu'on décide de donner à ce type d'informations biologiques dans des règles de vie sociale qui sont compliquées. On parle de filiation, par exemple.
Non, mais moi, je pense pas. Moi, je suis pas pour que ça soit ouvert n'importe comment, etc. Je pense qu'il faut que c'est quelque chose qui doit être ouvert et encadré. Donc, au même titre que quand on a des informations de génétique médicale, on passe par un médecin qui sait interpréter ça. On peut très bien imaginer un corps de métier qui permette de faire ces tests d'origine génétique. Pour l'instant, de toute façon, les gens qui souhaitent le faire le font à l'étranger et se retrouvent tout seuls devant leur ordinateur avec ces résultats. Donc, c'est pas non plus la solution. Donc, moi, je trouve que l'idée d'interdire n'est pas la bonne solution, vu que de toute façon, on n'a pas les moyens d'appliquer une interdiction de ce type. Encore une fois, on parle que pour les tests d'origine géographique et qu'à mon avis, il faut l'encadrer. Donc, je trouve que la position de continuer à interdire n'est pas la bonne. Et je trouve dommage que dans la loi de bioéthique, finalement, on ait tout qui soit mélangé. Il y a les tests d'origine médicale, sur la filiation, et je pense qu'il faudrait peut-être ajouter un statut aux tests d'origine géographique.
Alors, vous faites allusion aux tests médicaux, parce que certaines de ces sociétés se mettent également à proposer des informations d'ordre médical. Après analyse de votre génome, vous avez tel risque accru de cancer, de de diabète, etc. Est-ce qu'il faut, là aussi, autoriser l'accès à ces tests librement, qui, là encore, dans l'état actuel du droit français, ne peuvent être que prescrits par un médecin en centre d'indication? Quelle est votre position sur cette question?
En fait, ça revient un petit peu au débat qu'on vient d'avoir, parce que, justement, en France, que ce soit les usages policiers ou les usages médicaux, je l'ai dit, il y a une intermédiation de professionnels, voilà, dont les compétences sont reconnues. Mais ça veut dire aussi que la société investit. Hein, parce que ces professionnels, il faut les former, il faut les reconnaître, il faut les contrôler. C'est un coût pour la société. Et donc, on le fait pour des usages dont on pense qu'ils ont une conséquence, intéressante. Hein. C'est un usage pertinent de la génétique. Hein. Donc, que ça soit le fait de prendre soin ou que ça soit le fait d'aider la justice à traquer les coupables et à faire révéler la vérité avec toutes les guillemets qui sont requis pour ce genre de choses. Et moi, je suis très perplexe sur l'intérêt que notre société pourrait avoir à investir autant pour permettre de donner des informations dont la qualité est pour le moins discutable. Comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, on n'est pas très précis. Ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est-à-dire de la précision, en fait, ces technologies-là, ces formes d'analyse-là, au niveau individuel, encore une fois, pas au niveau collectif, ne les fournissent pas. Voilà. Hein. Donc sur la question de la réglementation des tests de santé, c'est extrêmement important, puisque vous parliez tout à l'heure de 23andMe, cette société américaine qui a été fondée en 2007, propose depuis le départ d'utiliser l'ADN pour tout ce qui pourrait être possible. Et donc ça va effectivement de l'origine géographique jusqu'à est-ce que vous éternuez au soleil, est-ce que vous avez une propension à boire du café le matin ou à vous coucher tard le soir, en passant par des maladies génétiques rares, mais qui sont des vraies maladies génétiques, jusqu'à un facteur de risque de diabète, d'asthme, etc. Et alors, toute cette fourchette de questions médicales sont extrêmement complexes. Et ça, pour le coup, moi, je suis complètement défavorable à l'ouverture de ces tests, encore moins en France, parce que, justement, ça crée un espèce de flou où on pense que tout est mis à égalité. Des maladies génétiques rares doivent être prises en charge par des médecins compétents, et puis des facteurs de risque génétiques pour des maladies complexes dans lesquelles l'environnement est extrêmement important. On parle de l'asthme, la pollution, le diabète, la nourriture.
Non, mais je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Hein. Je pense que c'est fondamental qu'en France, que toutes ces informations génétiques médicales restent dans un contexte médical avec des gens compétents pour les interpréter. Et pourquoi ne pas imaginer que pour les tests d'origine géographique, on fasse pas une espèce de diplôme universitaire, une accréditation, un conseiller ou quelque chose d'équivalent qui permettrait à faire cette interface entre le public et ces boîtes qui donnent des résultats d'origine géographique, étant donné, encore une fois, je le répète, que de toute façon, de l'interdire est complètement aberrant, vu qu'on estime, alors encore le « on » et les chiffres, quand même à plusieurs centaines de milliers, les gens qui font ces tests. Donc on va pas, faut accompagner quelque chose, faut pas l'interdire, ça sert à rien. De l'interdire, finalement, on laisse encore plus les gens face à ça, complètement désemparés, sans avoir d'interlocuteur fiable pour leur expliquer vraiment les tenants et les aboutissants. Donc moi, je suis plus pour une autorisation avec un encadrement. Alors effectivement, peut-être pas du niveau que l'on a pour les tests, bien sûr, médicaux ou pour les tests liés à la justice, mais au moins quelque chose qui permette de ne pas laisser l'usager face à ces données avec finalement pas toute l'information qu'il faudrait pour pouvoir les interpréter correctement.
Alors, parmi les arguments avancés par les partisans de l'autorisation des tests génétiques d'origine, il y avait l'idée que chacun a un droit à connaître ses origines. On avançait le cas, évidemment, des gens de père inconnu, mais plus généralement que ce serait une partie des droits humains. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument ?
Je pense que donner tant de poids à la parenté biologique est vraiment quelque chose de très récent dans notre histoire. Je pense que, d'ailleurs, la norme, hein, comme tu le dis, de la société, c'est plus finalement la parenté sociale, que toute personne qui connaît un peu l'anthropologie sait que cette histoire de parenté biologique est une norme, hein, qu'il y a plein d'endroits dans le monde où c'est la parenté sociale qui prime. Néanmoins, quand je vois les reportages et cette espèce de douleur qu'on ressent chez les gens à pas pouvoir connaître leur origine, quelque part, comme on a les outils pour les aider, je me demande dans quelle mesure il ne peut pas y avoir un accompagnement pour aider ces gens qui ont l'air de vraiment souffrir du fait de ne pas connaître leur géniteur biologique.
Moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur ces tendances lourdes qui accompagnent la génétique, de la naturalisation, au sens où, comme si c'était inné, une essence, hein, d'un certain nombre de choses dans nos sociétés, dont on sait très bien qu'elles ne sont absolument pas strictement naturelles, que ce soit l'origine, que ce soit le comportement ou encore l'intelligence. Hein, parce qu'on voit refleurir ces dernières années, récemment, toute une série de travaux qui n'ont rien à envier aux travaux des eugénistes de la fin du XIXe siècle, hein, sur cette essentialisation biologique véhiculé par la génétique. Loin de moi l'idée de penser que la génétique porte cette idée d'essentialisation, mais encore une fois, il est possible d'utiliser comme ça la génétique. C'est un des usages.
Voilà. Ah, mais de toute façon, l'essentialisation, c'est un prêt-à-penser, hein, la naturalisation. C'est tellement beaucoup plus simple de penser que tout est dans un truc biologique que de réfléchir à quelque chose d'un peu plus complexe et intéressant. Donc, on l'a eu de tout temps, cette essentialisation. Et d'ailleurs, sur les tests d'origine, je pense que le plus drôle, c'est l'idée qu'en fonction de l'origine géographique, on aimerait telle ou telle musique. Alors ça, c'est vraiment l'essentialisation poussée à son extrême, comme si dans notre ADN, il y avait notre idée, notre appétence pour certaines musiques.
Ouais, je suis d'accord pour dire que c'est quelque chose qui est présent de tout temps, entre guillemets, mais en même temps, je pense qu'il y a quand même des périodes historiques où ces discours d'essentialisation sont plus forts que d'autres. On a bien vu, après la Seconde Guerre mondiale, les généticiens ont fait une espèce d'aggiornamento, sont revenus sur un certain nombre de discours que même les mêmes avaient pu avoir 20 ou 30 ans plus tôt, et que quand on voit les positions de l'UNESCO, etc., il y a un refus de cette approche par les essentialistes. Là, on a aujourd'hui une remontée en puissance, mais très inquiétante de mon point de vue. Et donc, je trouve que ces situations-là nous obligent de penser ces questions d'essentialisation telles que les outils dont on dispose aujourd'hui sont capables de le faire. Enfin, les conséquences de ces outils-là. Voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça. Il faut, certes, il y a des envies, il y a des besoins, enfin, il y a exprimé, etc. La question, c'est comment on y répond. Voilà. Et c'est pour ça que la question de l'accès aux dossiers médicaux, enfin pas aux dossiers médicaux, mais aux dossiers à la naissance des enfants qui sont nés sous X ou des pardons de sperme, etc., ça c'est des réponses sociales. Hein, c'est pas des réponses qui donnent une place centrale à ces formes de technologies qui sont, de mon point de vue, très porteuses. Hein, je suis d'accord, ça se réduit pas à ça, mais de potentialité des sciences.
D'où mon idée qu'il faut vraiment accompagner.
Evignon, vous plaisantiez sur le fait que le goût musical soit lié à la génétique, mais c'est aussi une illustration de la manière dont fonctionnent ces entreprises. Je ne sais plus laquelle de ces entreprises de tests génétiques a un partenariat avec Spotify. Une fois qu'on vous a trouvé 32% d'origine espagnole, vous avez le droit à une playlist de musique de flamenco.
Ah, mais non, mais l'objectif de ces compagnies, c'est de faire de l'argent.
Ben, c'est précisément, je voulais en venir à ça. Que
les choses soient bien claires.
Bien sûr, mais il y a aussi tout un marché derrière et qui est un marché typique de l'économie du numérique où la richesse repose dans les données.
Oui.
La richesse d'une entreprise de ce type, c'est la base de données qu'elle a de ses précédents clients qui vont chercher à renforcer. Alors, comment réguler tout ça, puisque vous avez appelé une régulation de ces choses, comment réguler ces gigantesques données génétiques?
Je pense que ce serait important d'imaginer, mais alors peut-être que je rêve, que les données des gens qui souhaitent qu'elles soient bien protégées soient effectivement bien protégées, c'est-à-dire qu'on ait un dépositoire de données, comme en France on a quand même, on a tous des cartes d'identité, etc. Je pense que le fichier des cartes d'identité nationales est bien protégé, enfin j'espère, et on peut imaginer aussi qu'on construise au moins un outil autour de ça, qui est pour mandat de bien protéger ces informations-là que les individus se sont amusés à aller faire à l'étranger, comme c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, mais qui est au moins, je dirais, un depository, enfin un endroit de stockage où on puisse assurer une conservation fiable de ces données sans utilisation possible en termes de malversation.
Parce que vous-même, vous m'expliquiez en préparant l'émission que vous avez été amené à ne plus rendre librement accessibles les données génétiques de vos recherches pour ne pas qu'elles soient pillées précisément par ces sociétés.
Oui, tout à fait, parce que nous, quand on fait du travail de terrain, on a des engagements éthiques et notamment on a l'engagement éthique d'utiliser ces données que pour la recherche et pas à des fins commerciales. Or, ces entreprises vendent après leurs données génétiques de leurs usagers à différentes sociétés commerciales. Donc, à partir de là, nous, nos données qui avant étaient assez facilement disponibles pour toute la communauté scientifique, on les protège mieux, et notamment on a un endroit où on les dépose qui est géré au niveau européen et qui a toute une barrière de filtres qui nous permet, nous, scientifiques, de donner accès à nos données aux autres laboratoires qui font de la recherche scientifique, parce que c'est quand même quelque chose d'important et d'essentiel, et qu'il ne faut pas perdre ça, mais de bloquer l'accès à des finalités commerciales. Donc ça existe.
Catherine Bourguin, sur ces enjeux.
Alors, sur la commercialisation, la première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément de publicités qui sont faites par ces entreprises. Et en France, il y a toute une série de publicités sur Internet. Hein, et quand on parle de l'engouement du public pour ces tests d'ascendance, c'est aussi la conséquence de campagnes publicitaires. Enfin, je ne dis pas que tout se réduit à la force de la pub, mais disons qu'il y a quand même une force de la pub qui n'est pas à négliger pour analyser ce phénomène. Hein, donc, il y a vraiment un basculement de la génétique en France dans un univers marchand, consumériste,
récréatif.
Alors voilà, bon, moi j'aime pas ce terme.
On offre ça pour l'anniversaire.
Oui, voilà, c'est ça, pour Noël, on fait un package, tout le monde se fait tester, etc. Mais donc avec une espèce de simplification du rapport à la génétique, quand c'est pas si grave que ça, etc. etc. Donc autant moi je suis persuadée que souvent la génétique c'est pas si informatif que ça, autant je suis pas d'accord pour dire que la production de ce type de savoir n'est pas si anodin que ça socialement. Alors après, sur la question des bases de données, alors ça c'est une question évidemment cruciale de la génétique, c'est-à-dire que pour que la génétique parle, fasse sens socialement, c'est pas une information sur un individu qu'il faut, c'est un regroupement. C'est vrai pour les recherches biomédicales, c'est vrai pour les fichiers nationaux d'empreintes génétiques de la police, et c'est évidemment vrai, on l'a discuté, pour les tests d'ascendance. Donc cette question de pouvoir penser la sécurisation, elle est essentielle. Mais c'est compliqué de penser à la sécurisation, hein, parce que si il est possible de penser la sécurisation quand on contrôle les usagers potentiels, à savoir les laboratoires agréés par la police, les laboratoires scientifiques, etc., quand on rentre dans un univers marchand ouvert, comment on régule ça, sachant tout le droit qui existe sur la régulation du commerce, hein, voilà. Donc là, c'est compliqué, et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on essaye de le penser facilement, et qu'il suffit pas de dire il faut réguler. Parce qu'on voit bien, là, notamment sur la question de la sécurité, il y a eu quelques affaires qui ont été publiées récemment qui montrent que sur les bases de données actuellement disponibles dans ces sociétés, en fait, par des ruses informatiques de hackers d'informations génétiques, ils arrivent en fait à aspirer le contenu des bases de données par des outils assez sophistiqués, mais ce qui n'était pas du tout prévu. Hein. Donc on voit bien qu'il y a toute une série, en fonction des formes d'usage que chaque entreprise va utiliser, qui vont rendre compliquée la sécurisation. Et ça, c'est important, parce qu'on peut toujours dire oui, développons, on sécurisera, et la question, c'est est-ce que c'est la sécurisation est-elle même possible, étant donné ces types de données et les formes d'usage ?
Nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions de sécurité de données qu'on retrouve dans plein de sujets scientifiques et techniques. Merci beaucoup, et à bientôt pour une prochaine édition de Science Friction sur Mediapart.